Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va remettre ce temps au Seigneur, je vous propose qu'on prie pour que le Seigneur bénisse ce temps de partage. Merci Seigneur, merci Père éternel, parce qu'encore ce matin tu es au milieu de nous, encore ce matin tu veux toucher nos cœurs. Encore ce matin Seigneur tu veux faire des miracles au milieu de nous Seigneur, et je te prie qu'à travers ta parole Seigneur tu puisses guérir les cœurs, tu puisses toucher les cœurs Seigneur, tu puisses encore attiré vers toi, Seigneur. Merci, Père, pour ta présence, ta grâce et ton amour. Amen. Alors, vous savez, ce mois de janvier, il y a eu un temps de jeûne dans l'Église, 21 jours de jeûne. Ça s'est arrêté dimanche dernier. Je sais qu'il y en a qui ont désiré continuer. Alléluia, il y a vraiment une soif de Dieu, une recherche de Dieu. Je vous encourage encore, merci beaucoup pour ces temps qu'on prend avec Dieu, c'est important. Et Johanna avait reçu le thème pour ce jeûne, c'était l'amour. L'amour. Alors ce matin, je voudrais justement continuer sur ce thème qui est si essentiel, celui de l'amour. L'amour véritable, concret, juste, en fait celui dont nous parle la parole de Dieu. Ça serait bien présomptueux de dire qu'on va parler de l'amour en 30 minutes, je ne pourrais pas faire ça parce que c'est tellement immense, on pourrait y passer des heures. Mais j'aimerais qu'on approfondisse un peu ce qu'est cet amour dont Dieu nous parle. Cet amour, il est d'abord absolument nécessaire pour que les choses bougent, vraiment, dans nos familles, dans notre pays, dans ce monde, et bien sûr dans l'Église. S'il n'y a pas l'amour, rien ne change, rien ne bouge. Alors, je vous mets juste le titre, d'abord l'amour, voilà. Aujourd'hui, vous savez, quand on prononce le mot amour, il a malheureusement perdu beaucoup de son sens, de sa force. Derrière le mot amour, on met quoi? Une idée vague, une émotion passagère, un sentiment, une belle phrase sur les réseaux sociaux, mais on ne sait plus trop ce que c'est. Est-ce que ça existe encore, l'amour? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est encore possible? Qu'est-ce que c'est l'amour? Du coup, ceux qui se réfèrent à l'amour, qui disent oui, il y a encore l'amour, ils sont un peu moqués. Ils sont un peu mis de côté, on ne les prend pas au sérieux. Et c'est précisément pour cette raison, dans ce monde, parce qu'on met l'amour de côté, que la situation empire et empire et empire, dans tous les domaines. Parce que le seul remède capable d'atteindre la racine de tout ce mal, en fait, c'est l'amour. Tous les efforts humains, tout ce qu'on voudra faire, toutes les lois, tout ça c'est bien, ça peut apporter une amélioration, mais ça ne touchera pas le fond du problème. On ne touchera pas jamais au cœur du problème. Toutes ces lois, tout ce que peuvent proposer les hommes, ne peut pas changer en fait le cœur de l'homme. On ne change pas un cœur avec des lois. Seul l'amour peut vaincre l'égoïsme. Depuis la chute de l'homme, vous savez, depuis qu'il y a eu cette scission avec Dieu, où l'homme a choisi de suivre son propre chemin, de suivre quelqu'un d'autre de Dieu, il y a quelque chose qui s'est installé dans son cœur, c'est l'égoïsme. Et c'est devenu le standard chez l'homme par défaut, c'est l'égoïsme. C'est quoi l'égoïsme? Et moi alors? Qu'est-ce que j'y gagne? C'est ça. Se poser, c'est vivre avec cette question. D'être toujours tourné vers soi. Ce qui va engendrer quoi? L'indifférence, l'avidité, l'injustice, la violence. Dans la Bible, dans Jacques 3,16, je ne vous ai pas mis le verset, mais il est dit « Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, jalousie, rivalité, c'est l'égoïsme, là aussi habite la discorde. » Le désordre est toutes sortes d'agissements inspirés par le mal. L'égoïsme est la source de tous les maux, en fait, comme l'affirme ce verset. Et l'égoïsme ne peut être vaincu que par l'amour. Vous savez, vous allez peut-être faire des crêpes bientôt. Si vous dites, je vais faire des bonnes crêpes, mais vous remplacez le lait par du vinaigre, vous pouvez prendre tous les bons instruments que vous voulez, avoir les meilleurs chefs pâtissiers à côté de vous, si vous ne mettez pas du lait à la place du vinaigre, ça ne marchera pas. Vos crêpes, elles seront toujours dégoûtantes. Là, c'est la même chose. Si l'amour ne vient pas dans le cœur des hommes, si on ne proclame pas cet amour, si c'est seul l'amour peut changer ce qui se passe dans ce monde. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un truc de bisounours. Hein. L'amour, pas cet amour voilà, que les hommes présentent, mais l'amour de Dieu. Voilà pourquoi toute l'œuvre de Jésus, accomplie dans la volonté du Père et par la puissance du Saint-Esprit, est entièrement portée et finalisée par l'amour. Jésus est venu pour nous montrer l'amour du Père, nous l'enseigner, nous rendre capables de nous aimer nous-mêmes et d'aimer notre prochain. C'est ça l'évangile. C'est revenir à la base. Comme nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est amour. Jésus est venu pour que nous revenions dans cette dynamique d'amour. Et c'est ça la plus grande transformation. Vous savez, on parle souvent, l'évangile, c'est le salut. Mais ça ne s'arrête pas là. Le salut pour rentrer de nouveau dans cette vie pour les autres, pour donner aux autres, comme Jésus nous l'a montré. L'évangile nous sort de notre vie étriquée, d'une vie pour nous-mêmes. Si ce matin tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu sens que ta vie n'a aucun sens, c'est parce que tu vis sans doute pour toi-même. Donner sa vie à Christ nous permet d'élargir l'horizon. Parce que Christ a tout accompli pour nous, nous n'avons plus à vivre pour nous-mêmes. Nous pouvons alors vivre pour les autres. Et c'est ça la vie en abondance dont Jésus parle. Une vie qui peut se donner à l'autre. Une vie qui peut même se sacrifier pour l'autre. Et c'est là qu'est la vraie joie. Et c'est là qu'est la vraie paix. Jésus va dire dans Jean 13, 35, je vous l'ai mis, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que je peux choisir en plus des dons et de tout ce que Dieu veut me donner. L'amour, c'est ce qui va montrer que je vis avec Christ, que je suis chrétien. Jésus, il a été très clair, il n'a pas dit « On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à vos connaissances hyper grandes de la Bible, à la taille de votre église, à la croix que vous portez autour de votre cou, ou à l'autocollant que vous avez sur votre auto. » C'est pas ça, pas comme ça que les gens vont nous reconnaître en tant que chrétiens. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Voyez la responsabilité qu'on a. Parce que chaque fois qu'on va amener la division par une critique, parce qu'on va rejeter un frère, une sœur, peut-être que le monde ne le voit pas, comme ça on dit « Ah oui, personne ne m'a vu ». Mais spirituellement, ça a un impact. Parce que le peuple de Dieu doit rester uni. Et c'est là qu'on montre Christ, dans l'unité. C'est là qu'on montre l'amour de Dieu, parce qu'on reste uni. Et là où il y a l'unité, Dieu peut déverser sa gloire, Dieu peut faire ses miracles. Dieu va déverser quelque chose de grand, et le monde verra que nous sommes ses disciples. Donc, l'amour que nous manifestons est notre preuve concrète et réelle. C'est notre carte d'identité spirituelle. Je suis enfant de Dieu. J'aime mon frère, ma sœur, j'aime mon prochain. Dans 1 Corinthiens 13:1, c'est le chapitre sur l'amour, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va encore plus loin. L'apôtre Paul explique que nous pouvons avoir tous les dons, nous pouvons avoir toute la connaissance, toute la science, connaître tous les mystères. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Alors j'ai regardé hein, le mot « rien » en grec, là, c'est nul, hein. C'est zéro. Alors on cite souvent ce verset, hein, « si je n'ai pas l'amour, je suis rien ». Est-ce qu'on prend le temps de réfléchir en fait ce qu'il y a derrière ce verset, ce passage ? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je fais du vent en fait. Et puis il va utiliser une autre expression dans le premier chapitre, ça c'était dans le premier verset. Il va dire qu'on est comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alors j'ai cherché un petit peu pourquoi il prenait cette image-là. Et en fait, c'est une image qui est très forte. À Corinthe, un peu partout, il y avait beaucoup de cultes païens. Vous savez, les cultes païens, ils utilisaient beaucoup, justement, ce genre de choses que je vous ai mis. Un gong, il sonnait comme ça, il faisait beaucoup de bruit, ils avaient des cymbales, ils faisaient des bruits, pour montrer qu'ils étaient là, en fait. Mais il n'y avait rien derrière. C'était bruyant, ça faisait du bruit, mais il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas l'amour. C'était pour attirer l'attention, c'était pour provoquer une sorte de transe, pour impressionner la foule, mais c'était que du vent. Beaucoup de bruit, mais aucun sens. Et Paul dit aux Corinthiens, il nous dit à chacun de nous, attention. Vous pouvez faire du bruit comme ça, paraître, mais s'il n'y a pas l'amour derrière, ça n'a aucun sens. Sans amour, notre spiritualité n'est que du bruit. Alors comment les gens peuvent venir et être touchés ? C'est vide de sens. Sans amour, votre spiritualité ressemble à celle des temples païens, bruyante, spectaculaire, mais vide. Il y a du bruit, il y a des manifestations, mais il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas l'amour qui change tout. Ça doit nous faire réfléchir, parce que souvent, on va, dans la vie chrétienne, on va être attiré par les choses qui se voient, les choses qui, voilà, qui, où il y a une certaine puissance qui se déverse, et alléluia pour tout ce que Dieu fait. Mais n'oublions pas que toute chose doit être motivée par l'amour. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Parce que Dieu, tous ses actes sont motivés par une seule chose, l'amour. Et c'est ça qui produit le fruit. L'amour est au-delà des talents et des réussites. Sans amour, tout ce que l'on fait perd son sens profond. C'est-à-dire que c'est l'amour qui va donner du poids à ce que l'on fait. C'est l'amour qui va permettre que ce que l'on fait va rester jusque dans l'éternité. Sinon, ça va être fini ici, ça va être un temps comme ça, puis paf, il n'y a plus rien. C'est l'amour qui va donner ce poids. Et beaucoup, des fois je discute avec des frères et sœurs, beaucoup pensent ne pas avoir de dons, de compétences, ne pas savoir chanter, pas savoir jouer d'un instrument ou parler en public. Ils disent, c'est pas grave ça, c'est pas ça que Dieu regarde. Commence d'abord par aimer, comme Christ te le demande. Aime ton prochain, aime Dieu. Et ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un talent particulier. Tout le monde peut aimer. Tout le monde peut faire un sourire. Tout le monde peut dire je t'aime à quelqu'un. Tout le monde peut encourager, qu'on soit jeune ou qu'on soit âgé. Tout le monde peut se mettre dans la prière pour une personne. Il n'y a pas besoin d'avoir un talent particulier. Tout démarre de là, aimer. Quand nous aimons, nous montrons l'image du Père. Nous sommes à l'image de Dieu. C'est notre réelle identité. Vous savez, le chat, qu'est-ce qu'il fait ? Il miaule. Le chien, il jappe. Il aboie. Le chameau, il blatère. Et le chrétien, il se plaint. Non. Le chrétien, il aime. Il aime. Comme le chien jappe, le chrétien doit aimer. Il aboie, pardon. Comme le chien aboie ou le chat miaule. Le rôle du chrétien sur cette terre, c'est avant tout d'aimer. C'est pas d'impressionner l'autre. C'est pas de juger l'autre. C'est d'aimer simplement. Avoir un cœur qui aime. Ensuite, l'amour. Dieu est amour. Donc Dieu nous appelle aussi à refléter cet amour. Ensuite, l'amour est une décision. L'amour n'est pas un sentiment qui plane comme ça, une sorte d'émotion qui se dit « Ah, ce matin, ouais, je l'aime bien, lui. » Puis le lendemain matin, « Non, je l'aime plus, je ne peux plus le voir. » Vous vous rendez compte les relations que ça fait. Et pourtant, dans les couples, c'est souvent comme ça. Vous avez des témoignages, « Oui, je me suis levé un matin, ben, je ne l'aimais plus, mon mari. » Waouh ! C'est ça, l'amour ? L'amour, c'est une décision d'abord. C'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus, qui va repartir, qui va revenir. Non, l'amour est une décision. Dans Colossiens 3,14, il est dit Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. C'est bien nous qui le faisons, là. Revêtez-vous. Ce matin, vous êtes habillés. Vous avez pris des vêtements, vous les avez mis. La parole de Dieu nous dit, revêtez-vous de l'amour. Chaque matin, dites, qui je vais aimer ce matin ? Hein ? Il y a vraiment cette notion, ça nous appartient, c'est notre responsabilité. Le changement positif, surtout en matière d'amour et de bonté, ne se produit jamais par hasard. Vous savez, toutes les colères, tout ça, ça vient tout de suite. Ça. Il n'y a pas de souci. On ne sait pas quand ça va venir, mais on va pouvoir se mettre en colère sans qu'on l'ait prévu. Par contre, tout ce qui procède de l'amour, ça, il faut le préparer à l'avance. Il faut se dire, faire un plan d'attaque. Ce matin, je vais bénir telle personne. Ce matin, je viens au culte, mais je ne viens pas seulement pour recevoir. Mais Seigneur, donne-moi quelqu'un à encourager. Donne-moi quelqu'un à aimer. Qui a quelqu'un qui a besoin. Il faut une décision délibérée de la discipline et un engagement actif. Dans Jérémie 1,12, Dieu dit « Je veille sur ma parole pour l'accomplir ». On voit que chez Dieu, il prépare les choses intentionnellement. Il annonce et il fait, mais c'est préparé d'avance. Dans nos vies, ça doit être la même chose. On doit se préparer à faire le bien. On doit se préparer à aimer. Dans notre vie quotidienne, les actes d'amour, de générosité, de justice ou de compassion ne surgissent pas spontanément si nous restons passifs. Les bonnes habitudes, les transformations de caractère et les impacts sur les autres exigent un effort conscient et régulier. Ça demande un effort. Si on vit comme ça, ouais, je verrai bien ce qui se passe aujourd'hui. On va passer à côté. On va passer à côté de choses où Dieu nous demandait de bénir cette personne. Et pourtant, c'est notre rôle. Qu'on soit pasteur, qu'on soit chrétien depuis un an ou 20 ans, 30 ans, c'est la même chose. Hein. Notre rôle, c'est de bénir notre prochain. C'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit qui nous dise, voilà, en ce moment, tu vis des choses difficiles, mais je te donne la capacité quand même d'encourager quelqu'un. Amen. De ne pas rester là où tu en es. Et malheureusement, beaucoup, on peut être à attendre que les choses s'améliorent toutes seules. Alors on va venir, on va s'approcher, puis on va dire, ah, je prie pour moi pour que Dieu me donne de l'amour. Tout est là. Tout est déjà en toi. Il faut l'activer maintenant. Il faut l'activer. Dieu t'a déjà donné un cœur de chair. Maintenant, il faut s'en servir. Il faut le mettre en route. Et ça, c'est notre responsabilité. Je ne crois pas que les prières, prier pour que la personne ait plus d'amour, si elle reste passive, ça va être compliqué. C'est à nous aussi de dire, je vais commencer. Je le ressens peut-être pas, mais j'obéis. Et quand j'obéis, j'ouvre mon cœur à Dieu. Et lui va déverser l'amour encore plus. Mais j'ouvre la porte parce que j'obéis. Je fais ce que Dieu demande, je lui fais confiance. Il n'y a pas d'excuse à l'inaction. La vraie révolution dans nos vies va commencer quand nous décidons d'être proactifs, c'est-à-dire de se préparer à l'avance. Arrêter d'être spectateur, d'être simplement consommateur et devenir acteur. Parce qu'en chacun de nous, nous avons reçu le même Saint-Esprit. Donc cela implique de planifier des actes, de sortir de sa zone de confort. Ça va nous déranger, on va le voir tout à l'heure, de persévérer quand même, même quand c'est difficile. Rien de bon n'arrive sans intention et sans effort. Ce qui est précieux, ce qui a de la valeur, ce qui change les vies, vous verrez derrière, il y a toujours un effort. Si nos vies ont changé, c'est parce que Christ a payé le prix. S'il n'avait pas payé le prix, ça ne serait rien passé. Tout ce qui est beau coûte et a de la valeur. Donc on peut mettre simplement ça, commencer à mettre ça en place dans nos vies, prier différemment, arrêter de se centrer sur nous, sur nos besoins, de passer du temps à prier pour nos situations, pour ce qu'on vit de difficile, et se préparer à faire un geste d'amour pour quelqu'un. Seigneur, donne-moi aujourd'hui de bénir quelqu'un. Planifier de faire du bien à quelqu'un dans la journée, tout comme Jésus le faisait. Jésus se préparait dans la prière. On voit des fois, il se retirait. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il priait pour lui-même ? Non. Il cherchait la volonté de son Père pour dire, aujourd'hui, pour qui je vais prier ? Dans quel village je vais aller ? Qui c'est que je vais bénir ? Donc nous, nous devons faire la même chose. On va continuer avec ce que je disais tout à l'heure. L'amour coûte. L'amour n'est pas gratuit. Il nous coûte quelque chose. L'amour demande du sacrifice. Alors, il est très facile d'aimer quand tout va bien. Il est facile de sourire à ceux qui nous aiment. Mais Dieu, vous verrez, enfin, vous l'avez déjà constaté, va toujours placer à côté de nous des personnes qui ne sont pas faciles à aimer. Et c'est là qu'on va montrer Christ. Et alléluia pour ces personnes qu'il met autour de nous. Parce que c'est là qu'on peut montrer Christ. Christ, il n'a pas aimé que ceux qui étaient gentils avec lui. Et là, il nous donne cette grâce de pouvoir faire la même chose. Chaque fois qu'il y a un combat comme ça, et ben derrière, il y a une grande victoire, il y a une grande bénédiction. On peut montrer Christ. Donc, plus cela nous coûte, plus cela va être précieux et de la valeur et va pouvoir produire quelque chose de puissant. Renoncer à notre fierté et à notre confort. À l'image de Jésus, il est du ciel pour nous, pour venir dans l'arène et pour payer pour nous. Et nous aussi, nous pouvons, je pense, sortir de notre confort pour aimer. Et comme j'ai mis là, aimer ça coûte, mais ne pas aimer ça coûte encore plus cher. Vous savez, les gens les plus malheureux sont ceux qui sont tournés sur eux. Pour garder l'amour, il faut le donner. Et là, il y a quelque chose qui s'enclenche. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Même si c'est la personne que vous allez aider, ne va pas vous dire merci, mais Dieu va encore déverser plus pour qu'on puisse donner plus. Et se priver de cette grâce de pouvoir aimer, c'est se priver de tout ce que Christ a acquis sur la croix pour nous. Si on se prive d'aimer les autres, on ne profite pas de ce que Jésus a acquis pour nous, parce qu'il l'a acquis pour qu'on puisse aimer, justement. Donc que ce soit du temps, de l'énergie, de l'effort, de l'attention, ou parfois même des ressources financières ou émotionnelles, est-ce que nous sommes prêts à nous donner pour l'autre ? Est-ce que dans ma vie, je veux bien me laisser bousculer ? Est-ce que dans ma vie, je veux bien prendre du temps pour mon prochain ? Parfois, il faut abandonner pour aimer notre agenda personnel, pour écouter quelqu'un dans le besoin, notre confort pour aider quelqu'un de blessé, comme la parabole du bon samaritain, notre fierté pour demander pardon, et nos préjugés. Les personnes, vous savez, qu'on met dans une boîte. Attention. Surtout dans le monde du travail, on va dire, ah, t'as vu, celui-là, il est comme ci, comme ça. Ça va être compliqué après pour nous. On va désinguer ça dans la prière, de prier pour les personnes. Si vous entendez du mal de quelqu'un, ne restez pas avec ça. Priez direct, bénissez la personne pour que vous soyez capable de l'aimer. Dites du bien d'elle, recherchez ses qualités. Ne restez pas avec des choses qui vont infecter votre cœur, les poubelles que la personne a voulu mettre dans votre cœur. L'amour ne se contente pas de sentiments chaleureux. Il exige la mise en action de toute notre personne, de toute notre âme. Comme Jésus l'a fait aussi. Ce n'est pas un amour qui plane. Jésus, il est vraiment mort sur cette croix. Il a vraiment souffert pour nous. C'est un fait historique. C'est quelque chose de tangible. Dieu attend la même chose de nous. On ne peut pas dire, oui, facile d'aimer notre frère qui est en Chine, parce qu'il est loin de nous, c'est très simple. Mais celui qui est avec nous, à côté de nous aujourd'hui, c'est celui-là que Dieu avant tout nous demande d'aimer et d'encourager. Et vous savez, des fois on dit, on prie, oh Seigneur, fais-moi mourir à moi-même, je veux mourir à moi-même, je veux te refléter. Le meilleur moyen d'aimer les autres. Aimer quelqu'un, c'est mourir à soi-même. Parce que quand on aime quelqu'un, on meurt, on est obligé de s'abandonner. On est obligé de donner. On fait passer l'autre avant, comme Christ l'a fait pour nous. Donc, ça va coûter, mais il y a quelque chose de très bon. Il y a une vie en abondance. C'est là qu'est la vie et on ne doit pas se priver de pouvoir aimer. Il faut être prêt d'accepter d'être dérangé par Dieu. Parfois, il y a des personnes qui vont vous appeler, vont demander quelque chose. Et vous dites, non, Seigneur, non, je ne veux pas y aller, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et vous savez que ça travaille en vous. Et tant que vous n'allez pas dire oui, le Saint-Esprit ne va pas vous lâcher. Il faut accepter de se laisser déranger. Je ne dis pas de dire oui à tout, mais de travailler notre relation avec le Saint-Esprit pour être capable de dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Mais si en tout cas ça travaille, c'est peut-être que Dieu veut que vous fassiez quelque chose. L'amour, comme je disais aussi, ne reste pas abstrait. Il s'incarne dans des actes. Mettre en action l'amour. Par exemple, sourire à quelqu'un, comme je disais, dire bonjour, prendre du temps pour écouter quelqu'un, aider une personne dans le besoin, donner un petit cadeau, tendre la main à quelqu'un dans la souffrance. Ce sont des gestes simples, des gestes que chacun de nous peut faire. Mais ce sont aussi des choses qui vont transformer les vies. La nôtre est celle de la personne qui le reçoit. Ce sont les plus petits gestes qui ont le plus grand effet. Et moi, je connais des témoignages où il y a simplement une personne, elle a reçu un mot de remerciement. Ça a transformé sa vie simplement parce qu'on lui a dit merci. Ça a enclenché quelque chose derrière. Un sac de courses qu'on va donner à une famille dans le besoin. Une conversation avec quelqu'un qui se sent seul. Vous êtes dans une, des fois à la queue au supermarché, vous souriez à quelqu'un, la personne est contente. Vous reflétez Christ. Et ces actes, c'est l'expression concrète de l'amour de Dieu, en fait, qui se manifeste à travers nous. Pas seulement à travers des paroles bien évangéliques, bien religieuses, mais dans notre mode de vie de tous les jours. Et quand je relisais Corinthiens 13, j'étais surpris. Parce que le premier adjectif qu'on donne pour l'amour, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'amour est patient. Moi, j'aurais dit un texte sur l'amour, je n'aurais pas commencé par la patience. Et pourtant, la patience, c'est quelque chose de tellement précieux, c'est quelque chose qui permet de garder la relation avec une personne et de l'emmener plus loin. Le simple fait de montrer de la patience, ça touche les personnes, vous savez. On est tous différents, on n'est pas au même niveau, on n'aime pas les mêmes choses, on ne fait pas les mêmes choses, les choses à la même vitesse. Moi, je suis dans l'informatique et mon épouse, elle, l'informatique, ça plane. Et souvent, je dois expliquer continuellement les mêmes choses sur le smartphone, comment ça marche et tout. Et des fois, je me dis, waouh, c'est lourd. Mais le Seigneur me dit, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour avec ton épouse. Sois patiente avec elle. Explique encore une fois. Et on voit très bien quand on est patient avec les autres, mais on ne voit pas aussi comment les autres sont patients avec nous. Et je pense que mon épouse est patiente avec moi avec beaucoup de choses. Donc soyons sensibles à la patience. La patience, quand, chaque fois que vous êtes patient dans une file d'attente et que vous ne ronchonnez pas la caissière, vous montrez Dieu. Vous montrez le cœur de Dieu. Et vous savez, souvent ils sont reconnaissants. Ils disent « Ah, merci pour votre patience ». C'est tout simple, il ne faut pas chercher loin. Il ne faut pas chercher loin. Dieu, il est simple. Il ne nous a pas demandé de faire des trucs, des grands trucs. C'est dans ces petites choses qu'on va changer autour de nous, ce monde, notre entourage. Donc la patience. Là, je vous ai mis 6 gestes pratiques à intégrer, parce que souvent on parlait de l'amour, et puis c'est vrai, comme je disais, ça plane un peu. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc voilà. Identifier une personne à aimer chaque jour. Demander à Dieu chaque matin, qui dois-je aimer, qui dois-je aider, qui dois-je soutenir aujourd'hui. Et sois attentif à sa réponse. Des fois, j'allais au travail, et puis il y a quelqu'un qui vient vers moi qui me déballe toute sa vie. Je me dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi elle me... Et je ne comprenais pas que c'était la prière du matin que j'avais faite qui est en train de s'exaucer en fait. Et il faut être prêt. Si vous faites des prières comme ça, préparez-vous à ce que les gens viennent vers vous, à être dérangés. À être dérangés. Parce que Dieu va vous envoyer des personnes. Il faut être prêt à les accueillir. Écoutez activement quelqu'un sans distraction. On éteint son téléphone, on regarde dans les yeux. On offre du temps. Là, c'est pareil. L'écoute aujourd'hui, c'est quelque chose de... Les gens vont tellement à 100 à l'heure que les personnes ne trouvent plus quelqu'un pour parler. Et le simple fait de prendre un temps avec un collègue à la machine à café, en tête à tête, et d'écouter la personne, de s'intéresser à sa vie, de lui poser des questions, vous savez, d'avoir une écoute active en fait, de ne pas être distrait par autre chose. Mais ça, la personne, pour elle, c'est de l'or. On ne se rend pas compte. Peut-être que nous, on est dans l'église, on a l'habitude de pouvoir se confier les uns aux autres, mais les personnes qui sont dans le monde, qui n'ont personne à qui parler, qui vivent souvent des choses terribles, trouver simplement une oreille attentive, mais c'est tellement précieux. Offrir un geste de service sans rien attendre en retour, que ce soit une aide matérielle ou une présence sincère. Voilà, il y a plein de choses, de petites choses. Aller offrir des petits gâteaux, c'est tout bête. Mais Dieu n'en demande pas plus, vous savez. Les cœurs vont être ouverts, vont s'ouvrir à l'évangile. Parler des choses positives plutôt que juger. Encourage quelqu'un plutôt que critiquer. Ça aussi, les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre d'attendre toujours des critiques, des clashs, des machins comme ça. Quelqu'un qui vient et qui va dire de bonnes choses, sans juger, qui va bénir une autre personne. Ça aussi, ça va ouvrir le cœur de la personne, ça va lui faire du bien. Dire pardon ou exprimer de la gratitude quand c'est nécessaire. Cela exige l'humilité, mais transforme les relations. C'est clair. Si on dit qu'on aime, on doit marcher dans le pardon. On doit marcher dans le pardon. Exprimer aussi du remerciement aux gens qui nous aident, qui nous entourent. Ça paraît des choses logiques, mais l'ennemi s'attaque à ces choses de base pour nous faire planer sur des autres trucs. Revenons à ces choses de base fondamentales. Que Christ nous a laissé. Le pardon, le remerciement, la reconnaissance. Ensuite, voir chaque rencontre comme une opportunité d'aimer. Le sourire au bout, l'encouragement à un collègue, la patience dans une file d'attente. Chaque personne que vous rencontrez, c'est l'occasion, de montrer Christ. Par votre façon d'être. Pas forcément en annonçant de but en blanc l'évangile, en préparant le terrain, en montrant ce que c'est un chrétien, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui va être touché simplement par votre comportement, parce que vous reflétez Christ. Alors toutes ces petites attentions, aux yeux du monde, c'est pas grand-chose. Mais Paul, il nous dit que c'est la voie par excellence. C'est-à-dire que c'est le chemin royal. Si vous voulez entrer dans ce que Dieu a prévu, on ne peut pas passer hors de cette voie de l'amour. C'est la voie par excellence. Merci. Et je sais que beaucoup viennent parfois nous voir pour dire, voilà, ils savent que dans leur vie, ils ont un appel, que Dieu les a préparés pour certaines choses. Et ils disent, mais comment je fais ? Pour connaître, pour savoir ce que c'est mon appel. Alors là, on pourrait dire, tu vas dans ta chambre, tu jeûnes 7 jours et tu dis, tu pries pour connaître ton appel. C'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est aime. 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 Commence par aimer. N'aie pas les yeux fixés sur cet appel, sur ce ministère que Dieu a prévu pour toi. Parce qu'il faut commencer par aimer simplement. Les petits gestes que j'ai dit. Et quand Dieu voit ce cœur qui s'ouvre, ce cœur qui est prêt à se donner, ce cœur qui aime, qui est prêt à se laisser déranger, le reste va se mettre en place naturellement. Ce n'est pas la peine de forcer les choses. Aime. Aime. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Tu accompliras toute la loi et les prophètes. Tout est dedans. Dieu nous invite à aimer. Et quand tu aimes, tu ne perds jamais ton temps. Certaines personnes ont dit, oui, mais là, tu vois, j'ai déjà cet âge-là, je ne suis pas encore... Tu ne perds pas ton temps à aimer. C'est quelque chose que Dieu te demande, simplement. C'est quelque chose qui va te faire du bien. C'est quelque chose qui va te faire sortir de ton carcan, de tes problèmes. Vous savez, il y a souvent des personnes, elles étaient dans des trucs, dans la dépression, dans la déprime, et elles se sont simplement mises à s'intéresser aux autres personnes qui étaient autour d'elles, à essayer de les aider. Et la dépression, elle est partie. Elle est partie. Je sais qu'il y a parmi nous beaucoup de personnes qui aiment dans l'ombre. Vous servez à un parent malade, vous aidez financièrement en secret, parfois vous supportez les insultes dans votre propre famille sans rendre le mal. Le monde peut vous prendre pour des personnes faibles, on peut même vous répondre par de la haine. Mais j'aimerais ce matin vous encourager, vous aussi, qui êtes déjà dans cette dynamique. Ne lâchez pas. Galates 6,9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. » Amen. Vous voyez, c'est comme ces racines. Elles sont encore sous terre. On ne voit pas les choses parfois quand on sème. On ne voit pas les choses quand on donne de l'amour. Dieu les voit, lui. Dieu est au courant de ce que vous faites. L'homme ne voit pas, mais Dieu sait combien tu as planté de l'amour, combien tu as donné autour de toi. Et il te fait une promesse, qu'au jour voulu, au moment voulu, vous récolterez. Ne vous lassez pas de faire le bien. Faites-le pour Dieu, simplement. Pas pour les hommes, pas pour être reconnu. Continuez de le faire, continuez de bénir ceux qui sont autour de vous. Dans le secret, Dieu le voit. L'amour qui n'est pas reconnu sur terre est souvent celui qui a le plus de poids dans le ciel. Dieu le voit. Continuez d'aimer malgré l'ingratitude. C'est comme, quand on fait ça, on est comme Jésus en fait. C'est ce qu'il a fait, il a aimé malgré l'ingratitude des hommes. Donc continuez de semer l'amour. Attendez-vous à la récolte, attendez-vous à ce que Dieu, au moment voulu, fera éclore tout cela. Je vais conclure. Jésus a tout accompli, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que nous puissions, tout comme lui, vivre une vie glorieuse dans l'amour. L'amour n'est pas un sentiment, comme je l'ai dit, qui nous tombe dessus par hasard. C'est une décision. L'amour va nous coûter. Mais face à tout cela, il y a une gloire tellement grande, vous savez, d'aimer son prochain, de ne plus vivre pour soi-même. Aujourd'hui, nous sommes face à une responsabilité, à un choix. Allons-nous continuer à vivre selon le mode par défaut, c'est-à-dire l'égoïsme ? En attendant que le monde s'améliore autour de nous, en attendant que les autres soient plus gentils avec nous pour les aimer, ou allons-nous choisir activement l'amour délibéré, l'amour inconditionnel, sans attendre rien des autres? Tout changement, vous savez, dans une famille commence par un acte d'amour intentionnel. Le changement dans cette Église va commencer par le refus de l'égoïsme pour laisser Dieu agir et par ce désir délibéré d'aimer notre prochain, coûte que coûte. Moi, vous savez, j'ai attendu dans ma famille, j'ai attendu 26 ans pour dire « je t'aime à mon papa ». Je regrette beaucoup aujourd'hui. Mon papa, il m'a dit « je t'aime » il y a 2-3 semaines pour la première fois. Je t'aime, c'est quoi? C'est 7 lettres? C'est dur de dire. Je ne fais pas leur proche, hein, je le fais à moi. C'est dur de dire je t'aime à quelqu'un. C'est plus quand ils sont plus là qu'il faudra leur dire. Hein. Et vous savez, simplement ces 7 lettres, je t'aime, elles peuvent faire des choses vraiment qu'on ne s'attend pas. Chassez la pudeur, les hommes. Arrêtez cette pudeur. Arrêtez. Il faut qu'on arrête avec ça. Dites « Je t'aime » à vos femmes. Dites-leur. Dites-leur. Vous pouvez rentrer un soir, elle ne sera plus là. Le Seigneur leur a repris. Dites-lui « Je t'aime ». Pas qu'une fois, hein. Dites « Je t'aime » à vos parents. Dites « Je t'aime » à vos enfants. Ce sont des petites choses à la portée de nous tous. Pas besoin d'avoir une fac de théologie. Je t'aime simplement. Je vais finir avec un petit défi que je vous mets pour cette semaine. Notre défi de la semaine ou de toute une vie, hein. J'ai mis pour cette semaine. Mais... Planifiez un acte d'amour ou plusieurs. Ne l'attendez pas, créez-le. Mettez-vous devant Dieu. Seigneur, j'ai envie de bénir quelqu'un cette semaine. Montre-moi la personne que tu as préparée, que moi, tu m'as spécialement prévu pour la bénir. Montre-moi comment faire. Dites oui à une interruption. Soyez attentif à celui que Dieu mettra sur votre route. Peut-être qu'à un moment, vous allez être pressé dans la semaine et Dieu a prévu quelqu'un. Ça va venir chambouler votre agenda. Préparez-vous à dire oui. Et puis, priez pour un cœur de serviteur. Demandez à Dieu de vous donner ses yeux pour voir la valeur de chaque personne. Donc, soyons ceux qui ne parlent pas seulement d'amour, mais qui incarnent l'amour, qui vivent l'amour, qui donnent de l'amour. Soyons la preuve que Jésus est vivant par la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Soyons cette preuve au milieu de nous. Voilà. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin et nous te remercions pour cet amour que tu as déversé sur nous. Seigneur, combien tu as été patient envers nous. Avant même que nous te connaissions, tu nous aimais déjà. C'est toi qui nous as aimés le premier, Seigneur. Merci pour cet amour que tu révèles dans nos cœurs en ce moment. Je te prie que chacun puisse recevoir cette révélation d'abord de ton amour pour pouvoir ensuite le donner autour d'elle. Merci Seigneur de faire de nous ces artisans de paix, de faire de nous ces petits Christ qui vont apporter le réconfort, la réconciliation, la consolation. Seigneur, conduis-nous. Ne soyons pas des chrétiens de nom, mais des disciples de Christ qui vont changer ce monde par l'amour. Merci Père. Amen.